Chapitre 18. Frère Gorenflot entre la potence et l'abbaye. Chico démasque d'Épernon. L'aventure de la conspiration fut jusqu'au bout une comédie. Les Suisses, placés à l'embouchure de ce fleuve d'intrigue, non plus que les gardes françaises embusquées à son confluent et qui avaient tendu là leur filet pour y prendre les gros conspirateurs, ne purent pas même saisir le fretin. Tout le monde avait filé par le passage souterrain. Ils ne firent donc rien sortir de l'abbaye, ce qui fit qu'aussitôt la porte enfoncée, Crillon se mit à la tête d'une trentaine d'hommes et fit invasion dans Sainte-Geneviève avec le roi. Un silence de mort régnait dans les vastes et sombres bâtiments. Crillon, en homme de guerre expérimenté, eût mieux aimé un grand bruit, il craignait quelque embûche. Mais en vain se couvrit-on d'éclaireurs, en vain ouvrit-on les portes et les fenêtres, en vain fouilla-t-on la crypte, tout était désert. Le roi marchait des premiers, l'épée à la main, criant à tue-tête « Chico, Chico !» Personne ne répondait. « L'aurait-il tué ?» disait le roi. « Mordieu, il me paierait mon fou le prix d'un gentilhomme. »« Vous avez raison, sire, » répondit Crillon, « car c'en est un, et des plus braves. » Chico ne répondait pas parce qu'il était occupé à fustiger monsieur de Mayenne et qu'il prenait un si grand plaisir à cette occupation qu'il ne voyait ni n'entendait rien de ce qui se passait autour de lui. Cependant, lorsque le duc eut disparu, lorsque Gorenflot fut évanoui, comme rien ne préoccupait plus Chico, il entendit parler et reconnut la voix royale. « Par ici, mon fils, par ici » cria-t-il de toute sa force, en essayant de remettre au moins Gorenflot sur son derrière. Il y parvint et l'adossa contre un arbre. La force qu'il était obligé d'employer à cette œuvre charitable ôtait à sa voix une partie de sa sonorité, de sorte que Henri crut un instant remarquer que cette voix arrivait à lui empreinte d'un accent lamentable. Il n'en était rien, cependant. Chico, au contraire, était dans toute l'exaltation du triomphe. Seulement, voyant le piteux état du moine, il se demandait s'il fallait faire percer à jour cette traîtresse bedaine ou user de clémence envers ce volumineux tonneau. Il regardait donc Gorenflot comme, pendant un instant, Auguste dut regarder Cinna. Gorenflot revenait peu à peu à lui, et si stupide qu'il fût, il ne l'était pas cependant au point de se faire illusion sur ce qu'il attendait. D'ailleurs, il ne ressemblait pas mal à ces sortes d'animaux incessamment menacés par les hommes, et qui sentent instinctivement que jamais la main ne les touche que pour les battre, que jamais la bouche ne les effleure que pour les manger. Ce fut dans cette disposition intérieure d'esprit qu'il rouvrit les yeux. « Seigneur Chico ! » s'écria-t-il. « Ah ! » fit le Gascon, « tu n'es donc pas mort ?»« Mon bon seigneur Chico !» continua le moine en faisant un effort pour joindre les deux mains devant son énorme ventre. « Est-ce donc possible que vous me livriez à mes persécuteurs, moi, Gorenflot ?»« Canaille !» dit Chico, avec un accent de tendresse mal déguisé. Gorenflot se mit à hurler. Après être parvenu à joindre les mains, il essayait de se les tordre. « Moi qui ai fait avec vous de si bons dîners » cria-t-il en suffoquant. « Moi qui buvais si gracieusement, selon vous, que vous m'appeliez toujours le roi des éponges. Ah, moi qui aimais tant les poulardes que vous commandiez à la corne d'abondance, que je n'en laissais jamais que les os. » Ce dernier trait parut le sublime du genre à Chico et le détermina tout à fait pour la clémence. « Les voilà, juste Dieu !» cria Gorenflot en essayant de se relever, mais sans pouvoir en revenir à bout. « Les voilà, ils viennent, je suis mort. Oh, bon seigneur Chico, secourez-moi » Et le moine, ne pouvant parvenir à se relever, se jeta, ce qui était plus facile, la face contre terre. « Relève-toi !» dit Chico. « Me pardonnez-vous ? Nous verrons. Vous m'avez tant battu que cela peut passer comme ça !» Chico éclata de rire. Le pauvre moine avait l'esprit si troublé qu'il avait cru recevoir les coups remboursés à Mayenne. Vous riez, bon seigneur Chicot, dit-il. Sans doute je ris, animal. Je vivrai donc? Peut-être. Enfin, vous ne ririez pas si votre grand flot allait mourir.
Cela ne dépend pas de moi, dit Chicot, cela dépend du roi. Le roi seul a droit de vie et de mort.
Grand flot fit un effort et parvint à se caler sur ses deux genoux. En ce moment, les ténèbres furent envahies par une splendide lumière. Une foule d'habits brodés et d'épées flamboyants aux lueurs des torches entoura les deux amis.
« Ah, Chicot, mon cher Chicot !» s'écria le roi, « que je suis aise de te revoir !»«
Ah, vous entendez, mon bon monsieur Chicot, » dit tout bas le moine, « ce grand prince est heureux de vous revoir.
Eh bien ?»«
Eh bien, dans son bonheur, il ne vous refusera pas ce que vous lui demanderez. Demandez-lui ma grâce !»
Au vilain Hérode ?«
Oh, silence, mon cher monsieur Chicot !»
« Eh bien, sire, demanda Chicot en se retournant vers le roi, combien en tenez-vous ?»«
Confiteor, » disait Grandflot.
« Pas un, » répéta Crillon, « les traîtres, il faut qu'ils aient trouvé quelle couverture à nous inconnus. »«
C'est probable, » dit Chicot.
« Mais tu les as vus, toi, » dit le roi.
« Certainement que je les ai vus. »«
Tous ?»«
Depuis le premier jusqu'au dernier. »
« Confiteor, » répétait Grandflot, qui ne pouvait sortir de là.
« Tu les as reconnus, sans doute ?»«
Non, sire. »«
Comment, tu ne les as pas reconnus ?»«
C'est-à-dire que je n'en ai reconnu qu'un seul, et encore. »«
Et encore, ce n'était pas à son visage, sire. »«
Et lequel as-tu reconnu ?»«
Monsieur de Mayenne. »«
Monsieur de Mayenne, celui à qui tu devais... »«
Eh bien, nous sommes quittes, sire. »«
Ah, conte-moi cela, Chicot. »«
Plus tard, mon fils, plus tard. Occupons-nous du présent. »
« Confiteor !» répétait Grandflot.
« Ah, vous avez fait un prisonnier !» dit tout à coup Crillon, en laissant tomber sa large main sur Grandflot, qui, malgré la résistance que représentait sa masse, plia sous le coup. Le moine perdit la parole. Chicot tarda à répondre, permettant que, pour un moment, toutes les angoisses qui naissent de la plus profonde terreur vinssent habiter le cœur du malheureux moine. Un grand flot faillit s'évanouir une seconde fois en voyant autour de lui tant de colères inassouvies. Enfin, après un moment de silence pendant lequel grand flot crut entendre bruire à son oreille la trompette du jugement dernier,
« Sire, dit Chicot, regardez bien ce moine. »
Un des assistants approcha une torche du visage de grand flot. Celui-ci ferma les yeux pour avoir moins à faire en passant de ce monde dans l'autre.
« Le prédicateur Grandflot !» s'écria Henri.
« Confiteor, confiteor, confiteor !» répéta vivement le moine.
« Lui-même, » répondit Chicot.
« Celui qui... »«
Justement, » interrompit le Gascon.
« Ah ah !» fit le roi d'un air de satisfaction. On eût recueilli la sueur avec une écouelle sur les joues de Grandflot. Et il y avait de quoi, car on entendait sonner les épées comme si le fer lui-même eût été doué de vie et ému d'impatience. Quelques-uns s'approchèrent, menaçant. Grandflot les sentit plutôt qu'il ne les vit et poussa un faible cri.
« Attendez, dit Chicot, il faut que le roi sache tout. »
Et prenant Henri à l'écart, « Mon fils, lui dit-il tout bas, rend grâce au Seigneur d'avoir permis à ce saint homme de naître il y a quelque 35 ans. »
« C'est lui qui nous a sauvés tous. »«
Comment cela ?»«
Oui, c'est lui qui m'a raconté le complot depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. »«
Quand cela ?»«
Il y a 8 jours à peu près, de sorte que si jamais les ennemis de votre majesté le trouvaient, ce serait un homme mort. »
Grandflot n'entendit que les derniers mots « un homme mort » et il tomba sur ses deux mains.
Digne homme, dit le roi en jetant un bienveillant coup d'œil sur cette masse de chair qui, au regard de tout homme insensé, ne représentait qu'une somme de matière capable d'absorber et d'éteindre des brasiers d'intelligence. Digne homme, nous le couvrirons de notre protection.
Grandflot saisit au vol ce regard miséricordieux et demeura comme le masque du parasite antique, riant d'un côté jusqu'aux dents et pleurant de l'autre jusqu'aux oreilles.
« Eh, tu feras bien, mon roi, » répondit Chicot, « car c'est un serviteur des plus étonnants. »«
Que penses-tu donc qu'il faille faire de lui ?» demanda le roi.
« Je pense que tant qu'il sera dans Paris, il courra gros risques. » si je lui donnais des gardes, dit le roi. Gorenflot entendit cette proposition de Henri. Bon, dit-il, il paraît que j'en serais quitte pour la prison. Oh, j'aime encore mieux cela que l'estrapade, pourvu que l'on me nourrisse bien. Non pas, dit Chicot, inutile, il suffit que tu me permettes de l'emmener. Où cela? Chez moi. Eh bien, emmène-le, retiens-le au Louvre, où je vais retrouver nos amis pour les préparer au jour de demain. Levez-vous, mon révérend père, dit Chicot au moine. Il raille, murmura Gorenflot, mauvais cœur. Mais relève-toi donc, brute, reprit tout bas le Gascon en lui donnant un coup de genou au derrière. Ah, j'ai bien mérité cela, s'écria Gorenflot. Que dit-il donc? Demanda le roi. Sire, reprit Chicot, il se rappelle toutes ses fatigues, il énumère toutes ses tortures, et comme je lui promets la protection de votre majesté, il dit, dans la conscience de ce qu'il vaut, j'ai bien mérité cela. Pauvre diable, dit le roi, aie-en bien soin au moins, mon ami. Oh, soyez tranquille, sire, quand il est avec moi, il ne manque de rien. Ah, monsieur Chicot, s'écria Gorenflot, mon cher monsieur Chicot, où me mène-t-on? Tu le sauras tout à l'heure. En attendant, remercie sa majesté, monstre d'iniquité. Remercie. De quoi? Remercie, te dis-je. Sire, balbutia Gorenflot, puisque votre gracieuse majesté... Oui, dit Henri, je sais tout ce que vous avez fait dans votre voyage à Lyon pendant la soirée de la Ligue, et aujourd'hui enfin. Soyez tranquille, vous serez récompensé selon vos mérites. Gorenflot poussa un soupir. Où est Panurge? Demanda Chicot. Ah, dans l'écurie, pauvre bête. Eh bien, va le chercher, monte dessus, et reviens me trouver ici. Oui, monsieur Chicot. Et le moine s'éloigna le plus vite qu'il put, étonné de ne pas être suivi par des gardes. Maintenant, mon fils, dit Chicot, garde 20 hommes pour ton escorte, et détache-en 10 autres avec monsieur de Crillon. Où dois-je les envoyer? À l'hôtel d'Anjou, et qu'on t'amène ton frère. Et pourquoi cela? Pour qu'il ne se sauve pas une seconde fois. Est-ce que, mon frère, t'es-tu mal trouvé d'avoir suivi mes conseils aujourd'hui? Oh non, par l'amour Dieu! Eh bien, fais ce que je te dis. Et Henri donna l'ordre au colonel des gardes françaises de lui amener le duc d'Anjou au Louvre. Crillon, qui n'avait pas une profonde tendresse pour le prince, partit aussitôt. « Et toi, dit Henri, moi j'attends mon saint, et tu me rejoins au Louvre, dans une heure. Alors je te quitte. Va, mon fils. » Henri partit avec le reste de la troupe. Quant à Chicot, il s'achemina vers les écuries, et comme il entrait dans la cour, il vit apparaître Gorenflot monté sur Panurge. Le pauvre diable n'avait même pas eu l'idée d'essayer de se soustraire au sort qui l'attendait. « Allons, allons, dit Chicot en prenant Panurge par la longe. Dépêchons, on nous attend. » Gorenflot ne fit pas l'ombre de la résistance, seulement il versait tant de larmes qu'on eût pu le voir maigrir à vue d'œil. « Ah, quand je le disais, murmura-t-il, quand je le disais !» Chicot tirait Panurge à lui, tout en haussant les épaules. Le roi, en rentrant au Louvre, trouva ses amis couchés et dormant d'un paisible sommeil. Les événements historiques ont une singulière influence, c'est de refléter leur grandeur sur les circonstances qui les ont précédées. Ceux qui considéreront donc les événements qui devaient arriver le matin même, car le roi rentrait vers 2 heures au Louvre, ceux, disons-nous, qui considéreront ces événements avec le prestige que donne la prescience, trouveront peut-être quelque intérêt à voir le roi, qui vient de manquer de perdre la couronne, se réfugier près de ses 3 amis qui, dans quelques heures, doivent affronter pour lui un danger où il risque de perdre la vie. Le poète, cette nature privilégiée qui ne prévoit pas mais qui devine, trouvera, nous en sommes certains, mélancoliques et charmants ces jeunes visages que le sommeil rafraîchit, que la confiance fait sourire, et qui, pareil à des frères couchés dans le dortoir paternel, reposent sur leur lit rangé à côté les uns des autres. Henri s'avança légèrement au milieu d'eux, suivi par Chicot, qui, après avoir déposé son patient en lieu de sûreté, était venu rejoindre le roi. Un lit était vide, celui de d'Épernon. Pas encore rentré, l'imprudent, murmura le roi. Ah, le malheureux, ah, le fou, se battre contre Bussy, l'homme le plus brave, le plus dangereux du monde, et n'y pas plus songer. Tiens, au fait, dit Chicot, qu'on le cherche, qu'on l'amène, s'écria le roi, puis qu'on me fasse venir Miron. Je veux qu'il endorme cet étourdi, fût-ce malgré lui, je veux que le sommeil le rende robuste et souple et en état de se défendre. Sire, dit l'huissier, voici monsieur d'Épernon, qui rentre à l'instant même. D'Épernon venait de rentrer en effet. Apprenant le retour du roi et se doutant de la visite qu'il allait faire au dortoir, il se glissait vers la chambre commune, espérant y passer inaperçu. Mais on le guettait, et comme nous l'avons vu, on annonça son retour au roi. Voyant qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à la mercuriale, il aborda le seuil tout confus. « Ah, te voilà enfin, dit Henri. Ah, viens ici, malheureux, et vois tes amis. » D'Épernon jeta un regard autour de la chambre et fit signe qu'effectivement, il avait vu. « Vois tes amis, continua Henri, ils sont sages, ils ont compris de quelle importance est le jour de demain, et toi, malheureux, au lieu de prier comme ils ont fait et de dormir comme ils font, tu vas courir la passedie et les ribaudes, hein, corbleu, que tu es pâle, et la belle figure que tu feras demain, si tu n'en peux déjà plus ce soir. » D'Épernon était bien pâle, en effet, si pâle que la remarque du roi le fit rougir. « Allons, continua Henri, couche-toi, je le veux, et dors. Pourras-tu dormir seulement ?»« Moi, répondit D'Épernon, comme si une pareille question le blessait jusqu'au fond du cœur. Je te demande si tu auras le temps de dormir. Sais-tu que vous vous battez au jour, que dans cette malheureuse saison, le jour vient à 4 heures, il en est 2 heures te restent à peine. »« 2 heures bien employées, dit D'Épernon, suffisent à bien des choses. Tu dormiras ?» Parfaitement, sire. Oh, moi, je n'en crois rien. Pourquoi cela? Oh, parce que tu es agité, tu penses à demain. Hélas, tu as raison, car demain, c'est aujourd'hui. Mais, malgré moi, j'emporte le désir secret de dire que nous ne sommes point encore arrivés au jour fatal. Sire, dit D'Épernon, je dormirai, je vous le promets, mais pour cela, faut-il encore que votre majesté me laisse dormir? C'est juste, dit Chicot. En effet, D'Épernon se déshabilla, se coucha, avec un calme et même une satisfaction qui parurent de bon augure au prince et à Chicot. Oh, « Il est brave comme un César, dit le roi. Si brave, fit Chicot en se grattant l'oreille, que, par ma parole d'honneur, je n'y comprends plus rien. Vois, il dort déjà. » Et Chicot s'approcha du lit, car il doutait que la sécurité de D'Épernon allât jusque-là. « Oh !» fit-il tout à coup. « Quoi donc ?» demanda le roi. « Regarde. » Et du doigt, Chicot montra au roi les bottes de D'Épernon. « Du sang !» murmura le roi. « Il a marché dans le sang, mon fils. Quel brave !»« Serait-il blessé ?» demanda le roi avec inquiétude. « Bah, il l'aurait dit. Et puis, à moins qu'il ne fût blessé comme Achille au talon. » « Ah tiens, et son pourpoint aussi est taché. Vois sa manche. Que lui est-il donc arrivé ?»« Peut-être a-t-il tué quelqu'un, dit Chicot. Pourquoi faire ? Pour se faire la main, donc. » »« C'est singulier, fit le roi. » Chicot se gratta beaucoup plus sérieusement. « dit-il. Tu ne me réponds pas ?»« Si fait, je fais cela signifie beaucoup de choses, ce me semble. » « Oh, mon Dieu, dit Henri, que se passe-t-il donc autour de moi, et quel est l'avenir qui m'attend? Heureusement que demain... »« Aujourd'hui, mon fils, tu confonds toujours. »« Oui, c'est vrai. »« Eh bien, aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, je serai tranquille. »« Mais pourquoi cela ?»« Oh, parce qu'ils m'auront tué, les angevins maudits. »« Tu crois, Henri ?»« Oh, j'en suis sûr, ils sont braves. »« Je n'ai pas entendu dire que les angevins fussent lâches. » Non, sans doute, mais vois comme ils sont forts. Ah, vois le bras de Schomberg, les beaux muscles, les beaux bras. Oh, si tu voyais ceux d'Entraguet. Ah, vois cette lèvre impérieuse de Kélus et ce front de Maugiron, hautain jusque dans son sommeil. Avec de telles figures, on ne peut manquer de vaincre. Ah, quand ces yeux-là lancent l'éclair, l'ennemi est déjà à moitié vaincu. Cher ami, dit Chico en secouant tristement la tête, il y a au-dessous de fronts aussi hautains que celui-ci des yeux que je connais qui lancent des éclairs non moins terribles que ceux sur lesquels tu comptes. Est-ce là tout ce qui te rassure? Non, viens, et je te montrerai quelque chose. Où cela? Dans mon cabinet. Et ce quelque chose que tu vas me montrer te donne la confiance de la victoire? Oui, viens donc. Attends. Et Henri fit un pas pour se rapprocher des jeunes gens. « Quoi ?» demanda Chico. « Écoute, je ne veux demain, ou plutôt aujourd'hui, ni les attrister, ni les attendrir. Je vais prendre congé d'eux tout de suite. » Chico secoua la tête. « Prends, mon fils, dit-il. » L'intonation de la voix avec laquelle il prononça ces paroles était si mélancolique que le roi sentit un frisson qui parcourait ses veines et qui conduisait une larme à ses yeux arides. « Adieu, mes amis, murmura le roi, adieu, mes bons amis. » Chico se détourna, son cœur n'était pas plus de marbre que celui du roi, et bientôt, comme malgré lui, ses yeux se reportaient sur les jeunes gens. Henri se penchait vers eux et les baisait au front, l'un après l'autre. Une pâle bougie rose éclairait cette scène et communiquait sa teinte funèbre aux draperies de la chambre et au visage des acteurs. Chico n'était pas superstitieux, mais lorsqu'il vit Henri toucher de ses lèvres le front de Maugiron, de Clélius et de Schomberg, son imagination lui représenta un vivant désolé qui venait faire ses adieux à des morts déjà couchés sur leur tombeau. « C'est singulier, dit Chico, je n'ai jamais éprouvé cela, pauvres enfants. » À peine le roi eut-il achevé d'embrasser ses amis que d'Épernon rouvrit les yeux pour voir s'il était parti. Il venait de quitter la chambre, appuyé sur le bras de Chico. D'Épernon sauta en bas de son lit et se mit à effacer du mieux qu'il put les taches de sang empreintes sur ses bottes et sur son habit. Cette occupation ramena sa pensée vers la scène de la place de la Bastille. « Je n'eusse jamais eu, murmura-t-il, assez de sang pour cet homme qui en a tant versé ce soir à lui seul. » Et il se recoucha. Quant à Henri, il conduisit Chico à son cabinet et, ouvrant un long coffret d'ébène doublé de satin blanc, « Tiens, regarde, dit-il. »« Des épées, fit Chico, je vois bien. Après, oui, des épées, mais des épées bénites, cher ami. Par qui ?» « Par notre Saint-Père le Pape lui-même, lequel m'accorde cette faveur. Ah, tel que tu le vois, ce coffret, pour aller à Rome et en revenir, me coûte 20 chevaux et 4 hommes, mais j'ai les épées. « Pique-t-elle bien ?» demanda Chico. « Sans doute, mais ce qui fait leur mérite suprême, c'est d'être bénite. « Oui, je sais bien, mais cela me fait toujours plaisir de savoir qu'elle pique. « Païen !»« Voyons, mon fils, maintenant parlons d'autre chose. » « Soit, mais dépêchons. Tu veux dormir ? Non, je veux prier. En ce cas, parlons d'affaires. As-tu fait venir Monsieur d'Anjou ? Oui, il attend en bas. Que comptes-tu faire ? Je compte le faire jeter à la Bastille. C'est fort sage. Seulement choisis un cachot bien profond, bien sûr, bien clos. Celui, par exemple, qui a reçu le connétable de Saint-Paul ou Jacques d'Armagnac. Oh, sois tranquille. « Je sais où l'on vend de beaux velours noirs, mon fils. »« Chico, c'est mon frère. »« C'est juste. Et à la cour, le deuil de famille se porte en violet. Lui parleras-tu ?»« Oui, certainement, ne fût-ce que pour lui ôter tout espoir en lui prouvant que ses complots sont découverts. »« fit Chico. Vois-tu quelque inconvénient à ce que je l'entretienne ?»« Non, mais à ta place, je supprimerai le discours et je doublerai la prison. » « Qu'on amène le duc d'Anjou, dit Henri. « C'est égal, dit Chico en secouant la tête. Je m'en tiens à ma première idée. » Un moment après, le duc entra. Il était fort pâle et désarmé. Crillon le suivait, tenant son épée à la main. « Où l'avez-vous trouvé ? » demanda le roi à Crillon, l'interrogeant du même ton que si le duc n'eût point été là. Sire, son Altesse n'était pas chez elle, mais un instant après que j'eus pris possession de son hôtel, au nom de votre majesté, son Altesse était rentrée, et nous l'avons arrêtée sans résistance. « C'est bien heureux, dit le roi, avec dédain. Puis, se retournant vers le prince, « Où étiez-vous, monsieur ? » demanda-t-il. « Quelque part que je fusse, sire, soyez convaincu, répondit le duc, que je m'occupais de vous. » Je m'en doute, dit Henri, et votre présence me prouve que je n'avais pas tort de vous rendre l'appareil. François s'inclina, calme et respectueux. Voyons, où étiez-vous? Dit le roi, en marchant vers son frère. Que faisiez-vous tandis qu'on arrêtait vos complices?
Mes complices, dit François.
Oui, vos complices, répéta le roi.
Sûr, à coup sûr, votre majesté est mal renseignée à mon égard.
Oh, cette fois, monsieur, vous ne m'échapperez pas, et votre carrière de crime est terminée. Cette fois encore, vous n'hériterez pas de moi, mon frère.
Sire, sire, par grâce, modérez-vous. Il y a bien certainement quelqu'un qui vous aigrit contre moi.
Misérable, s'écria Henri, au comble de la colère, tu mourras de faim dans un cachot de la Bastille.
J'attends vos ordres, sire, et je les bénis, dussent-ils me frapper de mort.
Mais enfin, où étiez-vous, hypocrite?
Sire, je sauvais votre majesté, et je travaillais à la gloire et à la tranquillité de son règne.
Oh, dit le roi pétrifié, sur mon honneur, l'audace est grande.
Eh ben, fit Chicot, en se renversant en arrière, contez-nous donc cela, mon prince, ce doit être curieux.
Sire, je le dirais à l'instant même si votre majesté m'eût traité en frère, mais comme elle me traite en coupable, j'attendrai que l'événement parle pour moi.
Sur ces mots, il salua de nouveau, et plus profondément encore que la première fois, le roi, son frère, et se retournant vers Crillon et les autres officiers qui étaient là, « Ça, dit-il, lequel d'entre vous, messieurs, va conduire le premier prince du sang de France à la Bastille ?»
Chicot réfléchissait. Un éclair illumina son esprit. « Ah, murmura-t-il, je crois que je comprends à cette heure pourquoi M. d'Épernon avait tant de sang aux pieds et en avait si peu sur les joues. »